point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonsoir. Les dernières actualités liées au Covid-19. On apprend qu'une enseignante de l'école Saint-Joseph de Saint-Saulve près de Valenciennes a été diagnostiquée positive au Covid-19. L'établissement scolaire gardera donc porte close lundi. 6 étudiants d'une résidence universitaire à Tours, eux, ont été testés positifs entre le 17 et le 21 mai. Ils ont été relogés dans une autre résidence. Les 183 autres étudiants ont été confinés dans leur chambre en attendant les résultats de leurs tests de dépistage. Je vous rappelle qu'en France, le dernier bilan du coronavirus fait état de 28 289 décès, mais les données concernant les EHPAD n'ont pas été actualisées par rapport à jeudi. Elles devraient être mises à jour lundi. Le débat autour de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine continue, jugé inefficace selon une étude parue vendredi. Le ministre de la Santé a demandé aujourd'hui au Conseil de la Santé publique de proposer sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription de l'antipaludéen et son dérivé. En dehors des essais cliniques, sachez que la France a déjà restreint l'usage de l'hydroxychloroquine à l'hôpital uniquement et seulement pour les cas graves de Covid-19. Le choc dans les Alpes-Maritimes, le directeur d'une école primaire de Saint-Laurent-du-Var a été retrouvé pendu dans son établissement aujourd'hui. Pour l'heure, on ignore les raisons de son geste. L'homme était marié, père de 2 enfants et bientôt à la retraite. À l'international, la pandémie de Covid-19 a contaminé plus de 5 millions de personnes. Près de 335 000 malades ont perdu la vie depuis l'apparition du virus en Chine en décembre dernier. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec 95 000 décès. Des milliers d'Espagnols, eux, ont manifesté en voiture aujourd'hui dans les grandes villes du pays à l'appel du parti d'extrême droite. Ils dénoncent la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez. Et puis côté football en France, la saison 2020-2021 de Ligue 1 doit démarrer le dimanche 23 août. Selon la LFP, la nouvelle saison de Ligue 2 le 22 août. Attention, il ne s'agit que d'un calendrier provisoire dans l'attente des annonces que doit faire l'UEFA sur ses compétitions européennes lors du prochain comité exécutif prévu le 17 juin.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, on parle pour commencer ce flash de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire et plus particulièrement pour commencer du conservatoire Gabriel Fauré. L'ouverture de ce conservatoire concernant les établissements de Rambouillet et de Saint-Arnaud-en-Yvelines ne sera envisagée qu'au début du mois de juin à minima. Cependant, les réinscriptions se gèrent déjà en ligne depuis le 6 mai et jusqu'au 24 mai et toutes les manifestations organisées par ce conservatoire ont été annulées ou reportées à la session 2020-2021. En ce qui concerne toujours pour Rambouillet Territoire les cyber espace, eh bien ceux de Rambouillet et de Saint-Arnaud-en-Yvelines n'ouvriront qu'au début du mois de juin. Avant cela, les agents restent joignables en ligne. Et puis, notons que le cyberespace de Réseau restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Au niveau tourisme, les bureaux de l'Office de tourisme de Rambouillet Territoire, à Rambouillet encore une fois et à Saint-Arnaud-en-Yvelines, n'ouvriront également que début du mois de juin. On parle du département des Yvelines et du confinement qui a été particulièrement difficile pour les seniors, pour les personnes âgées isolées. Le conseil départemental a voté en faveur d'une extension des dispositifs d'aide estivale aux personnes âgées à domicile. C'est une action de solidarité du département qui a vocation à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, les jeunes, les anciens, les chômeurs, les abîmés de la vie, a souligné Pierre Bédier, président du conseil départemental. Alors qu'un vaste plan d'économie de 2 milliards d'euros est annoncé par Renault, selon le Canard enchaîné, les usines de Choisy-le-Roi, Dieppe et les fonderies de Bretagne dans le Morbihan seraient les premières à être fermées par le constructeur automobile français. Viendrait ensuite l'usine de Flins-sur-Seine dans notre département et de ses 2800 collaborateurs, même si le site pourrait se consacrer à une autre activité que la production automobile, à défaut d'une fermeture définitive. Merci d'avoir suivi ce flash. Vous pourrez retrouver plus d'informations locales en allant sur la page Facebook Radio RVE ou sur le site internet radio-rve.com. Avant de retrouver le sport, parlons-nous du ciel et de la météo. On va avoir un ciel relativement nuageux ce matin. Mais petit à petit, le soleil va poindre le bout de son nez pour être dominant dans l'après-midi avec des températures qui pourront atteindre les 21 à 22 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 24 mai, et surtout de partager cette heure d'antenne avec notre invité du jour, notre confrère de l'équipe et voisin, Vincent Duluc, que je salue. Vincent, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vincent, naturellement, très largement touché par le Covid. On en reparlera dans la première partie de cette émission. On reviendra aussi sur sa convalescence. Et puis, comme la nouvelle vie va revenir, eh bien, on parlera de ses projets et puis également de l'actu foot, notamment de cet après-confinement. Vincent, d'abord un petit mot. Vous êtes rentré sur Vieille Église le 22 avril. Nous sommes le 24 mai. Comment ça va?
Mais ça va bien, ça va bien. Alors, Vieille Église tient une place centrale dans ma convalescence. Je mesure mon rétablissement à la longueur des marches que je fais dans les rues du village. Mmh. Et je peux pas dire que je découvre des endroits, parce que ça fait quand même 25 ans que j'habite ici. Mais un peu quand même, il y a quand même des endroits où je me souvenais pas être allé. Et donc, j'ai mes petits circuits et au début, quand je suis rentré de l'hôpital, je pouvais pas marcher plus de 5 mètres. Et aujourd'hui, j'arrive à marcher plus d'une heure. Je vais dans les rigoles, je reviens dans le village. Enfin, voilà, j'ai mes petits circuits et ça me fait beaucoup de bien.
Oui, donc c'est l'essentiel de votre emploi du temps actuellement. Vous êtes toujours en arrêt de travail, donc vous marchez, vous vous rééduquez.
Oui, c'est ça. Alors après, je continue évidemment à m'intéresser à l'actualité. Oui. Comme ça va mieux, je jette aussi un œil sur mes autres activités. Je suis notamment, je suis président du Musée national du sport à Nice. Tout le monde est, on est tous en télétravail au musée et je participe à quelques réunions. Pour concerner effectivement mon travail à l'équipe, je suis encore en arrêt. Je vais prendre un petit peu de temps encore parce que, honnêtement, je suis pas capable encore de passer une journée active. Il y a toujours un ou deux moments dans la journée où je suis un peu fatigué, où faut que je m'allonge, où faut que je me repose. Le virus quand même revient un peu, enfin, du moins où les suites en tout cas du virus reviennent un petit peu, donc je suis pas encore en état de travailler normalement, mais je pense que ça devrait pas tarder maintenant. Mais en tout cas, je m'ennuie pas, dans la mesure où j'ai passé un mois à l'hôpital de Rambouillet. Le confinement est beaucoup plus court pour moi et je peux pas dire que je découvre, parce que ça fait un mois que je suis rentré, mais du coup j'en ai eu que les aspects positifs. Surtout, et puis être confiné à Vieille Église, enfin, il y a vraiment pire dans la vie, quoi.
Vincent, on peut entrevoir la rentrée vers fin août avec la reprise du championnat, par exemple?
Non, je pense que je vais reprendre le boulot avant. Je pense que je vais reprendre fin juin ou début juillet, un petit peu. Mm-hmm. Après, je sais pas ce que sera l'actualité du foot. Je sais pas, mais oui, je vais essayer de participer un peu à l'effort de guerre des camarades de l'équipe qui font tout pour faire un journal qui est souvent remarquable avec une actualité qui l'est vraiment beaucoup moins. Ou en tout cas qui est vraiment très réduite. Pour nous, l'arrêt du sport est un gros coup, comme la plupart des économies qui y sont liées. Mais je trouve que rédactionnellement, vraiment, on s'accroche et qu'on arrive à faire un journal qui est vraiment bien. Et ça donne envie de revenir et puis de participer à l'effort commun.
Oui, Vincent, ce qui est fabuleux, c'est que votre quotidien, l'équipe, sort donc chaque jour, alors qu'il n'y a plus du tout d'études sportives, quoi.
Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que certains dirigeants nous donnent quand même un peu de grain à moudre, les dirigeants français, que ce soit à la Ligue nationale ou la Fédération, tous les recours, tous les débats sur est-ce qu'on arrête à la 27e, est-ce qu'on arrête à la 28e, débat, mais pourquoi on a arrêté? Est-ce que c'est le gouvernement seul qui a arrêté? Est-ce que c'est le lobby de certains présidents de club auprès du gouvernement qui a poussé le gouvernement à arrêter? Toutes ces logiques-là nous donnent un peu de grain à moudre, mais évidemment, on aurait probablement préféré que le football français, ou du moins que le gouvernement se donne un peu de temps avant de décider l'arrêt de la saison, puisqu'on voit que dans les quatre autres championnats majeurs européens, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Angleterre, ils n'ont pas pris de décision aussi hâtive et que l'Allemagne a même déjà repris. Donc nous, on est effectivement très liés à l'actualité, comme beaucoup d'économies, et c'est vrai qu'il faudrait pas que ça dure. Alors moi, le premier, je suis évidemment sensible à la situation sanitaire. Je suis passé par une période assez difficile pour ne souhaiter à personne d'être victime de ce virus, mais c'est vrai que ça devient très très compliqué pour l'économie du sport actuellement et pour l'économie des médias. On a vu cette semaine RMC Sport, News va s'arrêter et que SFR va procéder à 1500 départs volontaires. Dans le domaine de la formation, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Moi, j'ai juste envie que la vie d'avant revienne et qu'elle soit pas dangereuse.
On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Tout d'abord, Vincent, il y aura un avant, il y aura un après. Pour vous qui avez été très touché par une telle maladie, fatalement, ça laisse des traces.
Oui, ça laisse des traces parce que...
Dans l'inconscient, naturellement.
Oui, mais un peu dans le conscient parfois aussi. Ouais. Quand dans les journaux télévisés, je vois des images des services de réanimation, je ressens deux sentiments un peu contradictoires. D'un côté, me revient la reconnaissance envers les personnels soignants et non-soignants, qui sont aussi bien copés de moi pendant aussi longtemps. Et en même temps, revient un peu cette période et ce lieu quand même qui sont très anxiogènes et dans lesquels, voilà, c'était compliqué. Moi, je reconnais que dans les trois premières semaines de mon hospitalisation, là, à Rambouillet, j'ai quasiment pas dormi, que j'y arrivais pas. Et voilà, je suis passé par quelques moments difficiles comme d'autres ont traversé également. J'ai eu la chance que le service réanimation de l'hôpital de Rambouillet soit vraiment top et qu'un toubib ait décidé qu'on pouvait essayer d'éradiquer ce virus chez moi sans m'intuber, parce que je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Ça a déjà été très compliqué, ça a déjà été tangent, mais là ça aurait vraiment été très 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 compliqué. Donc je remercie vraiment encore une fois tous les gens de l'hôpital Rambouillet. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour eux. Ce qui est très difficile, c'est que, en fait, je sais pas vraiment qui remercier, parce que pour moi, ces gens avaient une voix, ça c'est sûr, ils avaient une allure, mais ils n'avaient pas de visage. J'ai vu des soignants avec des masques, avec une charlotte sur la tête, avec une surblouse. Parfois, je reconnaissais une infirmière ou une aide-soignante à une allure, à un tatouage, à une boucle d'oreille. Donc, j'ai juste la possibilité de leur dire collectivement merci, et c'est ce que je dis aussi souvent que possible.
Bah, ils sont nombreux et nombreuses à nous écouter, donc ils vont se reconnaître, hein, tout ce personnel hospitalier qui va être d'ailleurs fêté pour le 14 juillet. Hein. On a fêté nos footeux en 98 et 2018, c'est le personnel hospitalier qui aura les honneurs de notre pays, donc lors de la fête nationale.
Mais je trouve ça vraiment très bien. J'avais eu la chance jusque-là de pas vraiment les connaître. J'avais eu la chance jusque-là de... J'avais jamais été en arrêt de travail de toute ma vie professionnelle et j'ai commencé en CDI, j'avais 20 ans et 3 semaines, donc il s'est passé du temps. Et j'avais jamais été en arrêt de travail, donc c'est la première fois que je subis une hospitalisation de plus de 2 jours. Et oui, et j'ai vu leurs conditions, j'ai vu la manière dont ils travaillent, j'ai vu leur attention, j'ai vu leur empathie, j'ai vu leurs compétences, j'ai vu leur résistance face à la fatigue, face aux heures qui s'enchaînent. Donc voilà, je suis content qu'ils soient enfin des personnages un peu centraux dans la perception qu'on est des travailleurs de ce pays, quoi.
Et puis en espérant qu'ensuite leur reconnaissance continuera, qu'on reverra véritablement leur statut, Vincent.
Voilà, on a tellement l'habitude que des promesses soient pas tenues qu'on se méfie un peu. Mais il me semble quand même que là, on est allé trop loin dans les promesses et même dans les mea culpa. On l'a vu avec le président Macron au début de la semaine. Sur l'hôpital en général, que j'ai l'impression qu'on va prendre des mesures un peu durables. Voilà. Encore une fois, on se méfie par expérience, mais là, cette fois, j'ai envie de croire que les promesses seront tenues.
Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, donc à écrire un bouquin sur ce que vous avez vécu, comme l'ont fait certains confrères qu'on connaît bien, hein, qui ont eu aussi des gros problèmes avec la maladie, et même de vous investir, par exemple, ce que fait Pierre Ménès ou Patrick Chêne, vous seriez capable, vous aussi, de participer à des œuvres caritatives auprès du personnel hospitalier ?
Écrire un bouquin, non, j'ai pas envie d'être un malade de représentation. Très franchement, si je dis la vérité, j'ai été contacté par... Je ne vais pas dire des dizaines, parce que j'exagère pas, mais pas loin, des dizaines de confrères de télé, de radio, de journaux, pour raconter ça. Je me suis limité d'abord à mon journal, à l'équipe. Ensuite, j'ai fait une apparition à l'équipe TV. Oui. J'ai accepté un truc pour Libération. J'ai accepté évidemment RVE.
Ah, c'est très gentil.
Parce que quand même, je peux pas faire moins. Je passe à peu près devant tout le temps.
Ouais,
quand je vais me promener. Et si j'ai fait l'écho républicain aussi, parce que justement je voulais envoyer un message aux soignants, mais c'est tout. Donc non, je veux pas écrire de bouquin là-dessus. J'ai pas. Et puis, enfin, je me sens pas légitime pour faire passer un message. Le seul message que j'ai à faire passer, c'est celui de la reconnaissance. Patrick Chêne a fait un livre intéressant sur le personnel hospitalier, mais il l'a fait avec un professeur. Il l'a pas fait tout seul. Donc, à la limite, le seul livre intéressant, ça serait de le faire avec un médecin ou avec un infirmier ou avec une infirmière ou une aide-soignante. On emploie le masculin qui englobe tout le monde, mais dans la réalité, on sait bien que 90% des infirmiers sont des infirmières et que c'est pareil chez les aides-soignantes. Et donc, oui, ça pourquoi pas, mais non, j'ai, je veux bien au contraire participer à des œuvres caritatives, ça volontiers, si je peux aider à ma modeste manière, ça sera, j'en serais toujours d'accord, mais être moi le personnage central après d'une histoire qu'on raconte, non, je préfère pas.
Ah oui. Alors, 28 jours d'hospitalisation, ça a commencé le 18 mars, vous l'avez dit ensuite, on passe par tous les états. Une question simple, comment on fait pour s'accrocher? On pense à quoi pendant que c'est difficile? À sa famille, à la vie qu'on a vécue, qu'on dit que c'est super. On essaie de se raccrocher à quelque chose quand même. Hein.
Ouais, mais enfin, on essaie de faire une chose à la fois et ce qu'on nous demande, c'est-à-dire. Bon, moi, j'avais déjà commencé par passer 8 jours de fièvre à la maison, donc c'était déjà pas très rigolo. À dormir très mal, à être très mal, très fatigué, etc. Vraiment pas sortir de mon lit. Ensuite, j'y suis allé en pensant que c'était pas très grave. Et puis à chaque fois qu'on me faisait un test, j'étais dirigé vers le côté le plus embêtant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé vite en réa. Ensuite, je suis sorti de réa, donc je me suis dit que ça allait mieux. Et puis j'y suis retourné parce que ça allait pas mieux. Et là, effectivement, il y a des hauts et des bas dans votre morale, mais il y a eu une ou deux informations qui m'ont un peu glacé et qui m'ont fait du mal, notamment la mort de Pape Duo qui m'a vraiment beaucoup touché parce que...
Vous l'avez appris sur l'instant
Je l'ai appris parce que j'avais mes téléphones avec moi et ma tablette, et je l'ai appris sur Twitter, je crois, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne veux rien lire sur le Covid, je ne lirai plus rien. Tant que je serai à l'hôpital, je lirai des choses sur la musique, sur le cinéma, sur d'autres choses, sur même un peu du sport, etc. Mais sur le Covid lui-même, je ne lirai rien. J'ai vraiment essayé de m'y tenir parce que j'avais pas besoin d'être tiré comme ça vers le fond par des choses négatives ou douloureuses. Et la mort de Pape Diouf, pour moi, était un peu douloureuse parce que je l'avais aidé à faire son livre il y a 3 ans. Donc je l'avais beaucoup côtoyé à ce moment-là et c'est vraiment quelqu'un que j'aimais bien. Et ça m'a fait mal, surtout que c'est un moment où moi-même j'avais pas d'oxygène, j'étais avec, je crois, 90% d'oxygène extérieur. Et j'ai lu que lui était mort comme ça, juste avant de reprendre l'avion pour essayer d'être rapatrié en France. Et je l'imaginais souffrant comme ça, et oui, ça m'a fait mal. Donc après ça, j'ai juste essayé de vivre au jour le jour et de faire ce qu'on me demandait et qu'on me disait, il faut absolument que vous dormiez sur le ventre pendant tant de temps. Je dis, je vais rester sur le ventre. Comme on me disait, il faut absolument que vous mettiez ce masque pendant 3 heures, qui était un masque un peu difficile et angoissant. Je disais, allez, on met ce masque. Voilà, il y a des moments qui étaient plus difficiles que d'autres, mais j'ai pas eu tant de grandes pensées que ça. J'essayais juste de m'accrocher un peu, mais parfois vous voyez tout noir, parfois vous avez de l'espoir, et ce qui est très pénible avec ce virus et cette maladie, c'est qu'il y a beaucoup de hauts et de bas, et que parfois vous faites un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, enfin, encore une fois, tant que j'ai pas passé le palier de l'hôpital en sortant, j'avais peur que quelque chose me rattrape, quoi, voilà, ça oui, ça j'ai eu cette peur, cette angoisse.
Et puis ce qui a beaucoup aidé, hein, vous l'avez souvent dit, Vincent, ça a été les très nombreux messages de sympathie, hein, de la presse en général, mais du monde du sport et surtout du monde du foot.
Oui, mais vraiment d'un peu de tout le monde. Je veux dire, j'ai reçu un coup de fil d'un ancien président de la République qui aime bien le sport. Mais aussi de plein d'entraîneurs. Parce que finalement, j'ai l'âge des entraîneurs, maintenant plus que des joueurs. Mais de joueurs aussi, un garçon comme Hugo Lloris, avec qui je suis très copain, a dû m'envoyer un message tous les 3 ou 4 jours. Donc, et le journal, pour ça, moi, l'équipe a vraiment été formidable. Ils ont été toujours à me soutenir, à centraliser un peu les messages pour que je ne sois pas inondé non plus. Chacun se donnait des nouvelles un peu par chaîne, etc. Le soutien des gens en général est très important parce que bon, le soutien de la famille est essentiel et une des choses les plus compliquées, c'est de savoir le souci qu'on cause à sa famille. Et c'est une maladie qui pose ce problème-là, c'est que toute visite est impossible. C'est-à-dire que j'ai passé 28 jours à l'hôpital de Rambouillet et sans voir personne, quoi. Et sans que personne puisse me voir. Donc, il y a eu des jours où j'étais trop fatigué pour donner des nouvelles et je sais bien que même s'ils essayaient d'avoir des nouvelles par le service qui répondait, qui disait « Oh, il est stable, ça va, voilà. » Il fallait se débrouiller avec ça et que c'était très difficile. Mais donc la famille, les amis, bien sûr, ça compte beaucoup. Enfin, il faut être clair, les messages et l'affection de la famille et des amis, c'est le plus important. Mais après, les messages du milieu de la presse, du milieu du foot, du milieu du sport en général et d'autres personnes, ça participe à donner du courage, savoir que les gens pensent à vous et vous encouragent et vous souhaitent de la force. Oui, ça donne probablement de la force.
Vous êtes rentré le 22 avril, quand on rentre, ça donne quel sentiment?
C'est très bizarre, c'est d'abord le bonheur de retrouver les siens. Moi, je suis confiné avec mon épouse et avec mes deux garçons et la fiancée de l'aîné. Donc j'étais vraiment content de retrouver la famille. Après, j'ai quitté l'hôpital, j'avais encore un peu des difficultés de respiration. Enfin, je respirais tout seul, sans aide. Mais je vais dire, c'est resté mon obsession pendant 2-3 jours encore. Est-ce que je respire bien tout seul? Est-ce que j'ai assez d'air? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais dormir? Et puis quand je faisais 5 mètres, il fallait que je m'assoie. Encore une fois, j'avais mis une chaise sur le chemin entre la chambre et la salle de bain. Donc l'obsession à ce moment-là, c'est de pouvoir marcher, c'est de pouvoir respirer et en même temps de retrouver les siens. Mais c'était, voilà, j'essaie vraiment retrouver, une fois que j'ai retrouvé un peu d'autonomie au bout d'une semaine, que j'ai commencé à pouvoir, ma chambre est à l'étage, à pouvoir descendre, participer à la vie de tous, rester un moment avec eux. Là oui, c'est devenu vraiment agréable. Après, dès que j'ai retrouvé un peu d'énergie et une autonomie plus importante, j'ai vraiment commencé à vraiment apprécier tout ça.
Oui, parce que naturellement, on perd beaucoup de poids, et puis il faut retravailler. Vous aviez un kiné à distance, hein, je crois.
Oui, absolument. J'ai demandé au kiné du club de Bourg-en-Bresse, qui est ma ville d'origine, en foot, et qui est un club de national, qui ne travaillait pas, qui était chez lui, de m'aider en visio, et 3 fois par semaine, je fais 1 heure avec lui, parce que oui, j'ai perdu à peu près 30% de masse musculaire, donc il faut la retrouver, et je travaille avec lui, je travaille assez durement, mais ça porte vraiment ses fruits, parce que là, je retrouve beaucoup, beaucoup d'énergie, et encore hier, je suis allé me promener 1h15 dans l'église, en passant par les rigoles, en venant par derrière, etc. et tout. Donc je sens que ça va mieux chaque jour.
Et vous avez repris goût à l'actualité sportive notamment, hein, parce que je crois savoir les premiers jours, bah naturellement on n'a pas la tête à ça, qu'on peut pas.
Exactement. En fait, il y a deux choses. Et ouais, c'est exactement votre question. Il y a deux choses. La première partie, c'est qu'on en a pas envie. C'est pas seulement parce qu'il y a des choses plus importantes que ça. C'est parce que vous avez pas de place dans votre esprit pour des choses comme ça. Vous faites le tri entre ce qui est essentiel et ce qu'il n'est pas, et qu'à ce moment-là, par rapport à votre niveau d'énergie, ben, l'essentiel, c'est pas là. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est que j'avais tout simplement pas de capacité de concentration suffisante. C'est-à-dire que, et c'était valable pour tout. J'étais dans un tel état d'épuisement en général, quand je suis rentré, que mon maximum de concentration, je donne toujours un peu le même exemple, c'était la 7e compagnie ou la Grande Vadrouille. Des films coréens sous-titrés, c'était pas possible, par exemple. Aujourd'hui, ça va mieux. Je regarde des séries, du cinéma, beaucoup mieux. Je peux recommencer à lire. Je recommence un peu à travailler pour le musée. Et je m'intéresse de nouveau un peu plus à la qualité du foot, bien sûr, parce que ça reste ma passion, ça reste mon milieu. Je suis pas mécontent d'avoir zappé une partie des polémiques sur la reprise du championnat, sur son arrêt.
On va en parler quand même.
Mais c'est une actualité qui me rattrape forcément à partir du moment où je vais mieux, où j'ai plus d'énergie, et donc je suis beaucoup plus capable de vivre une journée presque normale. Quoi. La première chose que je fais le matin, c'est toujours de lire les journaux. Hein. Je me réveille assez tôt, à 5-6 heures, et sur ma tablette, je lis l'équipe, je lis le Parisien, je lis Libération, et puis au moins. Quoi. Et après 2-3 autres magazines.
Donc c'est que ça va beaucoup mieux. Alors, je sais que vous êtes passionné aussi pour la série concernant Michael Jordan. Vous avez réussi à vous concentrer.
Mais oui, et puis j'ai un ami qui savait que j'étais malade et qu'il fallait me choyer et qui avant même que la série commence m'a envoyé un lien avec les 8 premiers épisodes. Donc j'ai pas eu à attendre le suspense de tous les lundis des 2 nouveaux épisodes, du moins jusqu'au dernier, les numéros 9 et le numéro 10. Et j'ai eu la chance de tout voir, à un moment. Et là oui, ça a été. Mais de toute façon, je pense que pour tous les gens qui aiment le sport, la série The Last Dance va rester comme associée au confinement et comme un grand moment du confinement. Après, on n'est pas sûr que l'histoire soit passée complètement comme ça, parce que c'est un doc qui a quand même été contrôlé par le clan de Jordan. Mais je trouve que c'est un doc qui parvient à ne pas dire que du bien de Jordan. C'est complètement fascinant. C'est le genre d'histoire qu'on a envie de, qu'on nous raconte, et j'ai envie de raconter des histoires comme ça, bien sûr. C'est passionnant.
Très bien. On marque une petite pause, hein. C'est la fin de la première mi-temps. Vincent. Donc, on va marquer une pause musicale et une page de pub. Et puis, on se retrouve donc,
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohar, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
La Bassienne de Menuiserie, c'est votre spécialiste en menuiserie reconnu au Grenelle de l'environnement. Dans les Yvelines, à votre service depuis 2007. Venez vite en magasin découvrir nos produits. Fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage. Et même des garde-corps, des clôtures, des verrières d'atelier et des fenêtres de toit, entre autres. Tous nos produits sont réalisés sur mesure et fabriqués en France. Nous proposons également des prestations d'isolation sous les combles et par l'extérieur. Les devis sont toujours gratuits. N'hésitez pas à nous demander le vôtre. Toute notre équipe sera ravie de vous accueillir, de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets de rénovation. À Bassienne de Menuiserie, showroom au 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
RVE, vivez votre région. RVE sur radio-rve.com.
Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Il n'est jamais venu l'ami, l'ami qui promettait la lune. Demain je décroche sans lui, Saturne. Il n'est jamais venu le train qui mène au paradis. Demain je mène mon chemin sans lui. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir.
sur l'actualité nationale et internationale.
Bonsoir. Les dernières actualités liées au Covid-19. On apprend qu'une enseignante de l'école Saint-Joseph de Saint-Saulve près de Valenciennes a été diagnostiquée positive au Covid-19. L'établissement scolaire gardera donc porte close lundi. 6 étudiants d'une résidence universitaire à Tours, eux, ont été testés positifs entre le 17 et le 21 mai. Ils ont été relogés dans une autre résidence. Les 183 autres étudiants ont été confinés dans leur chambre en attendant les résultats de leurs tests de dépistage. Je vous rappelle qu'en France, le dernier bilan du coronavirus fait état de 28 289 décès, mais les données concernant les EHPAD n'ont pas été actualisées par rapport à jeudi. Elles devraient être mises à jour lundi. Le débat autour de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine continue, jugé inefficace selon une étude parue vendredi. Le ministre de la Santé a demandé aujourd'hui au Conseil de la Santé publique de proposer sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription de l'antipaludéen et son dérivé. En dehors des essais cliniques, sachez que la France a déjà restreint l'usage de l'hydroxychloroquine à l'hôpital uniquement et seulement pour les cas graves de Covid-19. Le choc dans les Alpes-Maritimes, le directeur d'une école primaire de Saint-Laurent-du-Var a été retrouvé pendu dans son établissement aujourd'hui. Pour l'heure, on ignore les raisons de son geste. L'homme était marié, père de 2 enfants et bientôt à la retraite. À l'international, la pandémie de Covid-19 a contaminé plus de 5 millions de personnes. Près de 335 000 malades ont perdu la vie depuis l'apparition du virus en Chine en décembre dernier. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec 95 000 décès. Des milliers d'Espagnols, eux, ont manifesté en voiture aujourd'hui dans les grandes villes du pays à l'appel du parti d'extrême droite. Ils dénoncent la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement de gauche de Pedro Sanchez. Et puis côté football en France, la saison 2020-2021 de Ligue 1 doit démarrer le dimanche 23 août selon la LFP, la nouvelle saison de Ligue 2 le 22 août. Attention, il ne s'agit que d'un calendrier provisoire dans l'attente des annonces que doit faire l'UEFA sur ses compétitions européennes lors du prochain comité exécutif prévu le 17 juin.
Encouragez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, donc deuxième partie de ce rendez-vous avec notre ami Vincent Duluc. Simplement pour vous dire que cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, comme toutes les émissions de la saison 2019-2020 sur notre site Radio RVE, dans la page Tribune Sport. Vincent, on a parlé de Pape Diouf. On voulait aussi rendre un hommage à deux grands noms aussi du foot qui nous ont quittés pendant cette période, Michel Hidalgo et puis Robert Herbin.
Ah oui, absolument. Alors, il y en a un des deux que j'ai moins connu que l'autre, et je vais commencer par celui-là. C'est Robert Herbin, je l'ai connu comme fan de foot. Et mon premier livre de foot, d'ailleurs, était sur lui, un livre écrit en 1969 par Max Urbini. Qui s'appelait Sacré Football. Mmh. Et pour moi, qui étais supporter de Saint-Etienne quand j'étais jeune, parce que mon père est stéphanois, franchement, Herbin, ça a toujours été une figure vraiment importante. Et j'étais ado pendant la fièvre verte des années 70. J'ai écrit il y a 4 ans maintenant, un printemps 76 qui tournait autour de la manière dont, justement, de ma province bressane, j'avais vécu. Cette épopée verte.
Donc, on a lu bouquin, Vincent. On a
vraiment, c'est vraiment un personnage central qui m'a accompagné un peu toute ma vie, mais j'ai très peu travaillé avec lui. J'ai fait une seule interview de lui à l'automne 1993, quand j'étais au Progrès, et qu'on parlait de lui comme sélectionneur, comme successeur possible de Gérard Rouillet. Mmh. En fait, il était l'un des candidats dont on parlait avec Gilles Dergresse, je me souviens, et avec Guy Roux. Et finalement, c'était Aimé Jacquet, qui avait été nommé de manière intérimaire après que le président de la fédération ait dit que c'était la moins mauvaise solution. C'est-à-dire qu'il était enthousiaste. Ouais. Mais un ancien résident de vieille église.
Oui, bien sûr.
D'après. Et parce que d'ailleurs, quand je suis arrivé à vieille église, Aimé Jacquet m'avait dit « Tu viendras avec moi faire des footings le long des rigoles ». Je lui ai dit « Écoute, c'est pas sûr.
Oui, il n'était pas très loin. Je sais qu'il passait pratiquement tous les jours devant chez vous. Voilà.
Oui, voilà. Ouais. Et donc, pour moi, Robert Herbin, voilà, c'était vraiment une figure. Après, avec la presse, il n'était pas toujours simple. Quoi. Je me souviens, j'ai vécu de loin, mais que quand il était entraîneur de Lyon, il est resté deux ans et demi entraîneur de Lyon, et il n'était d'ailleurs pas très bon. Pas très bon. Moi, ça s'était mal passé, plus exactement. À chaque fois que les confrères de Lyon lui posaient une question sur le match, et il disait « C'est votre avis, c'est vous qui voyez, si vous le dites ». C'était à peu près ça, ses réponses. Donc, c'était un peu compliqué de travailler avec lui, mais c'était un vrai personnage. Et c'est quelqu'un qui a changé le foot français. C'est-à-dire qu'il a amené de la modernité dans le jeu, dans la préparation athlétique de Saint-Etienne, et ça fait rentrer le foot français dans ses meilleures années. En fait, c'est Robert Herbin, finalement, et Michel Platini, qui ne sont pas très, très bien entendus, d'ailleurs, quand ils travaillaient ensemble. Mais c'est Robert Herbin et Michel Platini qui ont finalement relancé un peu le foot français à partir du milieu des années 70. Après, concernant Michel Hidalgo, c'est différent. Je l'ai beaucoup mieux connu et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour lui. La dernière fois que je l'avais vu, j'ai fait un livre sur les sélectionneurs qui s'appelait Au cœur des Bleus, il y a 3-4 ans aussi, je sais plus exactement, et j'étais allé le voir à Marseille pour ce livre. Il m'avait reçu dans sa résidence, un peu au-dessus du Vélodrome, à mi-chemin du Vélodrome et de la mer. Il y avait un petit restaurant en bas où il venait, etc. et tout. Et il avait été gentil. Il était déjà un petit peu fatigué, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 heures de conversation, il avait un peu tendance à oublier ce qu'il avait dit au début, mais ça restait quelqu'un d'une bonté, d'une bienveillance assez incroyable. Et c'est une des rares personnes que je suis allé interviewer qui m'appelait le lendemain pour savoir s'il était bien rentré. Et ça, c'était Michel Hidalgo, voilà. Et c'est quelqu'un, Michel Hidalgo, et c'est quelqu'un qui a une importance fondamentale quand même dans l'histoire du sport français. Et, voilà, il est arrivé à tête de la sélection au début de l'année 1976. Il est resté jusqu'au soir du titre européen en 1984. Et voilà, et les années, pour qui aime le jeu, pour qui a une certaine idée esthétique du jeu, les années Hidalgo, ça reste les meilleures années qu'on ait jamais vues pour l'équipe de France. C'est-à-dire que le carré magique, voilà, c'est. Il fait partie des entraîneurs quand même qui ont inventé quelque chose. C'est-à-dire que il a souvent eu la réputation d'être juste l'entraîneur de Michel Platini qui lui décidait de tout. Mais à la sortie, le carré magique, c'est pas l'invention de Platini. Platini, il aurait préféré peut-être avoir des porteurs d'eau et être le seul numéro 10. Jouer avec 4 numéros 10 ou 3 numéros 10 comme Michel Hidalgo l'a décidé, c'était une vraie invention. Donc, il a pas juste accompagné Platini, Michel Hidalgo. Il a inventé quelque chose. Et dans l'histoire moderne du foot, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont inventé quelque chose.
Et puis ouais, c'est vrai que ce sont nos jeunesses et nos adolescents qui sont bons aussi, Vincent, à travers ces décennies. Hein.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Et c'est des pages qui se tournent. C'est-à-dire que c'est des pages. Voilà, moi j'ai 57 ans et j'étais ado quand ils étaient très importants et j'étais assez ému d'écrire. Malheureusement, il avait fallu que j'écrive avant, mais j'aurais pas pu l'écrire au moment de sa mort parce que j'étais déjà malade. Mais j'étais ému d'écrire la nécrologie de Michel Hidalgo dans l'équipe. Et voilà, et de raconter sa vie, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup ému. J'avais déjà dû le faire il y a quelques mois parce qu'on s'inquiétait beaucoup pour lui et qu'il fallait la préparer. Et que dans la presse écrite, malheureusement, on prépare toujours l'hommage afin qu'il soit rendu en proportion de leur mérite. On prépare toujours les hommages comme ça un peu en amont. Et ça m'avait ému de l'écrire. Et voilà, je suis assez... finalement assez fier d'avoir écrit son hommage, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, voilà, au-delà de son importance dans l'histoire du foot français.
Un grand humaniste, en tout cas. Bon, au niveau de l'actu du foot, donc la Ligue 1, on en parlait tout à l'heure, pour vous, on a fini les championnats un peu tôt, il aurait peut-être fallu attendre avant la reprise, comme vont peut-être le faire les autres pays européens.
Je pense qu'on a pris une décision trop tôt, pour des mauvaises raisons, bien sûr. Dans ces cas-là, vous n'avez pas de raison d'annoncer c'est fini tout de suite. Je veux dire, ça ne rapporte rien à personne, ça ne résout rien du tout, ça ne rend service, enfin, ça rend pas la solution plus facile à vivre pour les clubs. Donc, pour moi, la bonne solution, c'était de se dire, on se donne jusqu'à la fin du mois de mai et on verra. Il y avait pas nécessité de le décider à ce moment-là, mais il y a eu beaucoup de lobbying contradictoire auprès des cabinets d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Et là-dessus, il n'y a pas de chevalier blanc dans le football français. Ils s'y sont tous mis. Et il y a très peu, il y a très très peu de présidents qui s'intéressent vraiment à l'intérêt, qui s'intéressent à l'intérêt général. C'est-à-dire tous les présidents qui ont encore une position par rapport à l'arrêt du championnat, c'est lié à leurs intérêts particuliers. C'est pas difficile. Les présidents qui sont pour le fait que le championnat soit arrêté à la 28e journée, ce sont tous ceux qui, à part le PSG qui aurait été champion dans tous les cas, ce sont tous ceux qui ont un intérêt direct. Et encore, l'intérêt du PSG, c'est aussi d'embêter Lyon et de l'écarter de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions, parce que ça écarte un rival potentiel, pas de la Ligue des Champions, mais un rival potentiel en France. Donc voilà, là-dessus, les présidents ont juste pensé à leur gueule, pour parler trivialement. L'exception, pour moi, c'est Laurent Nicolin à Montpellier, qui est vraiment le digne fils de son père, qui aurait pu être européen si le championnat avait duré jusqu'à la fin, parce qu'il avait qu'un point de retard sur une place éventuelle potentiellement européenne, et qui a trouvé que c'était une bonne chose et qu'il y avait des choses plus importantes que ça. Lui, au moins, il n'avait pas d'intérêt à la coupure et il l'assume. Mais pour les autres, voilà, j'ai pas beaucoup d'illusions sur les autres et je trouve que tous les débats pour ça sont pas très honnêtes et sont assez orientés. Et que globalement, tous ces présidents-là feraient mieux d'en dire un peu moins, et voilà. Et ça nous ferait des vacances.
Et vous pensez qu'on va pouvoir finir les Coupes d'Europe, parce que ça va poser problème, hein, les clubs français ne jouent plus. S'il faut reprendre la compétition, il risque d'y avoir des petits problèmes et des petits écarts sur le plan physique, quoi.
De toute façon, à partir du moment où quelqu'un en France a pris la décision politique de sacrifier le foot pour faire passer un message, je crois que c'est à peu près ça. L'idée du gouvernement, c'était de dire on va arrêter le foot, comme ça on va faire comprendre à la population que c'est important et qu'il faut et qu'il y a des priorités, que la priorité est sanitaire. Malheureusement, depuis, toutes les décisions, elles montrent que la priorité, elle est de moins en moins sanitaire, elle est de plus en plus économique. Oui. Donc c'est quand même étrange d'écarter le foot du domaine économique. Mais bon, c'est comme ça. Mais à partir du moment où on prend cette décision-là, forcément, ça perturbe complètement la règle du jeu, d'abord en interne, au niveau français, parce qu'un championnat qui s'arrête après la 28e journée, ça ne veut rien dire. Les gens qui sont fiers d'être européens ou en Ligue des Champions, comme Rennes, ou fiers de se maintenir, ou fiers de monter, comme Lorient et Lens, qui avaient deux et un point d'avance sur le troisième, alors qu'il restait 10 journées, et je dis non, vous n'avez pas de quoi être fier, vous avez gagné un concours de circonstances. vous n'avez pas de quoi être fier. Et ça, c'est indépendant du plaisir que je peux avoir de les revoir en Ligue 1. C'est pas la question. C'est juste par rapport au principe. Mais donc, je reviens au départ. À partir du moment où le gouvernement a pris cette décision-là, avec l'aval notamment de Noël Le Graët et la Fédération, à partir du moment où le gouvernement a pris cette décision, eh ben, il n'y a pas de compétitivité possible pour les clubs français. Il n'y a aucune chance que le PSG et Lyon soient en forme au mois d'août pour jouer les matchs restants de Ligue des Champions s'ils ont lieu. Ils pourront sans doute même pas, ils pourront peut-être même pas jouer en France. Ouais. Donc ça risque vraiment d'être très très compliqué.
Et vous pensez que les coups d'orbes vont pouvoir repartir quand même?
En tout cas, il y a une volonté de les faire repartir. Mmh. L'UEFA a vraiment la volonté d'aller au bout. Et voilà, on ne peut pas savoir, en fait. Il est évident que ce qui va être décisif, c'est l'évolution de la pandémie. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Est-ce qu'il n'y aura pas de deuxième vague? Est-ce que le championnat d'Espagne va repartir? Est-ce que le championnat d'Angleterre va repartir? Est-ce que le championnat d'Italie va repartir? Pour l'instant, on n'en est pas sûr. Le seul qui est reparti, c'est l'Allemagne. Les autres ont la volonté de repartir, pas à n'importe quelle condition, avec parfois la pression du gouvernement, notamment en Italie, où la décision sera prise à la fin du mois. Donc voilà, c'est un peu... On ne peut pas vraiment savoir. Mais ce qui est vrai, c'est que si les quatre championnats majeurs reprennent, bon, la France est le cinquième, il n'y a pas grand-chose qui va s'opposer au fait qu'on joue la Ligue des Champions au mois d'août. Pour l'instant, on est encore un tout petit peu dans une logique de puisqu'il y a le virus, on arrête tout, un peu partout. On est en train de voir comment on peut reprendre. Mais chacun sent bien qu'à terme, on ne pourra pas continuer à s'arrêter de vivre pendant le virus. Il faudra vivre avec le virus. Donc peut-être qu'au mois d'août, on aura un peu avancé dans cette voie. Encore une fois, moi, j'ai une position un peu difficile parce que je souhaite vraiment à personne d'être touché par ce virus et encore moins d'être touché sérieusement. Parce que voilà, je sais exactement par où on passe, mais c'est des questions qu'il faudra forcément se poser. Et à mon avis, tout le monde va faire en sorte que ça reprenne. Et tout le monde dit oui, mais c'est pour l'argent, mais c'est pas seulement pour l'argent. Le foot, c'est pas que l'argent. Le foot, c'est aussi le sentiment de communauté dans les villes, chez les supporters. Le foot, c'est aussi une manière de vivre ensemble. C'est aussi un feuilleton qui nous intéresse. C'est pas qu'un système économique. Même si effectivement c'est toujours le système économique qui prédomine. Mais là-dessus, on peut donner des leçons à personne parce que si on prend le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, il est plutôt pour le fait que le championnat s'arrête. Il demande aux autres présidents de se calmer. Il y a des priorités. Mais lui, en même temps, il fait tout en tant que président de la Fédé pour conserver la finale de la Coupe de France au mois d'août, parce que ça rapporte à la Fédération, et pour mettre trois matchs de l'équipe de France au mois de septembre, amicaux au mois de septembre, parce que ça rapporte de l'argent à la Fédération. C'est-à-dire que il est d'accord pour que la Ligue 1 perde, je sais pas, 700 ou 800 millions d'euros, mais il n'est pas d'accord pour que la Fédération française perde 25 millions d'euros. Donc voilà, après, encore une fois, chacun voit ses intérêts, et c'est ce qui rend un peu flou les perspectives de reprise dans le foot. Quoi.
Et puis, concernant la finale de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, il va quand même falloir désigner deux Européens pour la saison prochaine, à nouveau en Europa League. Le problème, c'est peut-être aussi, Vincent.
Mais c'est ça, la question, c'est que je pense qu'il y a des présidents qui vont forcément avoir intérêt à ce que ces finales ne se jouent pas. Puisque s'il ne se joue pas, il a déjà été décidé que c'était les 5e et 6e de Ligue 1 qui seraient européens et pas les finalistes. Or, les 5e et 6e, c'est Nice et Reims. Donc, on peut être sûr que les présidents de Nice et Reims, messieurs River et Caillot, ne vont pas forcer dans les débats pour que ces finales aient lieu. On rappelle que les finales en Coupe de France, c'est PSG Saint-Etienne et qu'en Coupe de la Ligue, c'est PSG Lyon. Et qu'effectivement, voilà, qu'au niveau européen, ça serait pas tout à fait la même chose si c'était Lyon et Saint-Etienne d'un côté ou Nice et Reims de l'autre.
Allez, on marque une deuxième pause musicale et puis ensuite, bah, on a été très bavard, donc on va conclure cette émission en parlant notamment donc du Musée national du sport dont vous êtes le.
Griffo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Griffo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffo-électricité.com.
Vous recherchez la brillance absolue ? L'horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
LED Pro France, des compagnons électriciens de Rambouillet. Des problèmes d'électricité? Besoin d'un dépannage, d'un conseil électrique? Une installation électrique ou d'éclairage LED? LED Pro France. Une rénovation électrique de maison, commerce, industrie, particulier ou professionnel? LED Pro France, c'est une équipe avec un savoir-faire familial, toujours professionnel, avec une garantie décennale. LED Pro France, votre partenaire électricien proche de vous, c'est une équipe de compagnons électriciens qualifiés sur Rambouillet et sa région.
Les ampoules LED, projecteurs LED, bandeaux LED et des centaines d'articles LED à prix usine sont sur achatampouleled.com. Téléphone 01 30 88 97 54. 01 30 88 97 54.
RVE, vivez votre région. Sur radio-rve.com.
I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm these lonely nights. I love you, baby, trust in me when I say. Baby, to warm these lonely nights, I love you, baby.
Pratiquez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, dernière partie donc de notre émission avec notre invité du jour, notre confrère Vincent Duluc. Vincent, je voulais qu'on termine d'abord sur le musée du sport, mais auparavant, vous avez des projets de livres sur le sport, de côté.
Ah, j'ai un petit livre qui devait paraître avant l'Euro dans la collection oui. Point, les éditions du Seuil, là, le Point mm-hmm. Poche, là, sur des mots du foot un peu. Mm-hmm. Sinon, j'ai un livre qui devait paraître à Stock dans la collection Littérature Bleue, mais qui était plutôt autour de Clark Gable et de Carol Barr, mais qui va paraître du coup en janvier prochain. Voilà, qui avait rien à voir avec le foot. On était dans le cinéma hollywoodien des années 30. Voilà. Ah ouais. Exactement. Donc voilà, j'avais un peu changé. Sur le foot, on va voir, de toute façon, au niveau de l'édition, le report de l'Euro 2021, de l'Euro 2020 à 2021 change un peu aussi la donne. Il y a pas mal de livres qui devaient paraître au printemps, qui paraîtront au printemps prochain. Il y a sans doute des nouveaux projets qui vont venir. Donc, bon, j'attends un peu. Je sais que de toute façon, il y aura toujours quelques... Oui, il est possible que je fasse quelque chose encore sur le foot avant l'Euro, mais je sais pas encore vraiment quoi.
Parce qu'on va rappeler, hein, très brièvement, vous avez écrit sur Saint-Étienne, sur Georges Best, et puis il y a eu aussi un livre hors foot sur Conny Gander.
Voilà, c'est ça, sur la nageuse est-allemande ouais. qui était la reine des Jeux de Montréal en 1976.
Mmh. Le musée du sport, donc vous l'avez dit, le président. Très brièvement, vous pouvez nous dire ce qu'on peut trouver dans ce musée, en quoi ça consiste.
Je suis le président du conseil d'administration depuis un an et demi.
D'accord.
C'est un poste, comme je l'ai dit, c'est un poste bénévole parce que je peux pas avoir de lien avec le ministère des sports, évidemment, qui le subventionne et qui le dirige. On y trouve une exposition permanente qu'on est en train de réformer et qui va être de mieux en mieux. On raconte des histoires où il y a des très vieux objets, où on trouve les pointes d'Alain Mimoun au début de la Topec, un maillot de Jess Owens, la raquette de Yannick Noah, le peignoir et le short en sang de Marcel Sardan, la robe de Suzanne Lenglen. Enfin voilà, il y a vraiment des choses formidables et on est en train de faire rentrer dans ce musée beaucoup plus d'émotions encore avec de l'image et du son. Et puis chaque année, il y a des expositions temporaires. Il y a un an, c'était 100 ans de maillot jaune. Et cette année, ça sera média et sport. Ça va être ouvert là au printemps. C'est reporté sans doute à l'automne. Mais on pourra entendre toutes les grandes voix qu'ont bercées dans notre jeunesse. Et parce que finalement, pour nous, le sport, c'est quand même associé aux voix. Moi, je trouve, voilà, moi, à chaque fois que je vois des vieux souvenirs, des reportages, des rétrospectives ou des images d'un vieux match ou d'un vieil exploit, c'est pas la même chose s'il y a le son original, le commentaire original, ou s'il n'y a pas le son. Et c'est la force de la radio, c'est la voix. Et voilà, au musée, moi je voudrais que la voix rentre au musée et qu'elle y reste, voilà, notamment.
D'accord, très bien. Vincent, merci en tout cas d'avoir été ce matin notre invité principal.
Merci à vous.
Et puis quand on se retrouve, hein, on ne parlera que de foot, ça sera la vraie vie qui sera revenue, donc tout ira bien.
Ça sera avec plaisir.
Merci beaucoup Vincent, en tout cas, d'avoir été notre invité de ce dimanche 24 mai. Voilà. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci à Jean-Pierre d'avoir été à distance aux manettes ce matin. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour donc le 31 mai, le dimanche de Pentecôte. Bon dimanche à toutes et à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonsoir. Les dernières actualités liées au Covid-19. On apprend qu'une enseignante de l'école Saint-Joseph de Saint-Saulve près de Valenciennes a été diagnostiquée positive au Covid-19. L'établissement scolaire gardera donc porte close lundi. 6 étudiants d'une résidence universitaire à Toureux ont été testés positifs entre le 17 et le 21 mai. Ils ont été relogés dans une autre résidence. Les 183 autres étudiants ont été confinés dans leur chambre en attendant les résultats de leurs tests de dépistage. Je vous rappelle qu'en France, le dernier bilan du coronavirus fait état de 28 289 décès, mais les données concernant les EHPAD n'ont pas été actualisées par rapport à jeudi. Elles devraient être mises à jour lundi. Le débat autour de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine continue, jugé inefficace selon une étude parue vendredi. Le ministre de la Santé a demandé aujourd'hui au Conseil de la Santé publique de proposer sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription de l'antipaludéen et son dérivé. En dehors des essais cliniques, sachez que la France a déjà restreint l'usage de l'hydroxychloroquine à l'hôpital uniquement et seulement pour les cas graves de Covid-19. Le choc dans les Alpes-Maritimes, le directeur d'une école